Décryptage, Marie Cazadebé.
Emmanuel Macron s'apprête à se rendre en Égypte. Le président français y sera de dimanche à mardi prochain. L'objectif est clairement commercial, mais le chef de l'État ne pourra pas éviter la question des droits de l'homme dans un pays où les libertés individuelles ne cessent de reculer. En octobre 2017, lors de la visite de son homologue à Paris, le sujet avait été abordé à demi-mot.
Je sais tous les défis qui sont aujourd'hui ceux de l'Égypte pour sa sécurité. Et je souhaite que le président Sissi puisse conduire ce travail ambitieux à la fois de sécurité, mais de cheminement démocratique indispensable. Et là aussi, la France se tiendra présente aux côtés de l'Égypte.
Bien insuffisant pour les ONG de défense des droits de l'homme qui se mobilisent à la veille de ce voyage en Égypte. Elles réclament un changement de politique de la France, notamment sur les ventes d'armes. Alors pour quelles raisons? Quelle est l'ampleur des violations des droits de l'homme en Égypte? Pourquoi le régime semble s'enfermer dans une logique de répression systématique des voix dissidentes? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Antoine Madelin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous au studio. Vous êtes responsable du plaidoyer international à la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Et nous sommes aussi au téléphone avec Pierre Vermeeren. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur d'histoire contemporaine du monde arabe à l'université Paris Panthéon Sorbonne, co-auteur de Dissidents du Maghreb depuis les indépendances, c'est paru aux éditions Belin. Alors Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie, est parti en éclaireur le week-end dernier. Après un entretien avec Abdel Fattah al-Sissi, il a salué les choix courageux du président égyptien pour redresser l'économie de son pays. Pierre Vermeeren, de quoi parle-t-il? De quel progrès?
Disons que la révolution égyptienne était intervenue en 2011 dans un contexte de stagnation économique. Le gouvernement Morsi et la révolution avaient entraîné une baisse de la croissance problématique autour de 2%, qui dans un pays à très forte croissance démographique qui approche les 100 millions d'habitants, bien sûr, rend la situation intenable. Et depuis quelques années, le FMI a négocié, les organisations internationales ont négocié, ont fait des prêts monétaires tout à fait considérables, des prêts financiers, et du coup la croissance est repartie. Alors c'est pas merveilleux, c'est autour de 4, 5, 6%. Le PIB égyptien en termes bruts atteint 10% du PIB de la France, pour 100 millions d'habitants c'est pas énorme. À parité de pouvoir d'achat, c'est mieux. Mais en tout cas, ça permet aux Occidentaux, aux organisations internationales, de dire « ça y est, l'économie égyptienne est repartie ». Bon, il faut rester quand même modeste parce que la situation est terrible pour une très grande partie de la population.
Bien sûr. En quelques mots, Pierre Vermeeren, de quoi sont faites les relations commerciales entre l'Égypte et la France? On parle souvent de relations gagnant-gagnant.
La nouveauté de ces dernières années, c'est les ventes d'armes françaises à l'Égypte, qui sont passés de quelques dizaines de millions à plus d'un milliard, bientôt un milliard et demi d'euros en 2016, ou de dollars. C'est tout à fait important, bien sûr, mais c'est financé en grande partie par l'Arabie Saoudite, et ça tient au changement d'alliance qui a eu lieu en pleine guerre syrienne, puisque au départ, nous étions alliés, comme le gouvernement islamiste égyptien, à la révolution syrienne. Quand le coup d'État a eu lieu en Égypte en 2013, que les militaires ont repris le pouvoir, on s'est trouvé dans deux camps différents. Et depuis que Bachar a gagné, on se trouve à nouveau dans le même camp que les militaires, aux côtés de la Syrie, mais surtout de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite achète notre alliance parce qu'il y a une grande bataille au niveau du Moyen-Orient, au niveau international, un grand jeu de bascule où finalement la Turquie, qui initialement soutenait l'Égypte islamiste et avec nous d'ailleurs, aujourd'hui se retrouve face à nous. Et on est séduit par l'Arabie Saoudite et ses milliards. Donc c'est assez compliqué et c'est une géopolitique moyen-orientale.
On va y revenir forcément au cours de cette émission. En tout cas, point commun entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, Antoine Madelin, ce sont des gros clients d'armes françaises. Comment se situe le Caire?
Alors l'Égypte est le troisième client de la France en termes d'armement aujourd'hui, mais c'est surtout au fait un client que la France a pu équiper dans la répression qui est en cours aujourd'hui en Égypte contre la société civile.
Là, en l'occurrence, quand on parle de cette visite d'Emmanuel Macron, il sera question d'armement. Selon le journal La Tribune, la France pourrait finaliser à l'occasion de cette visite la vente de 12 avions de chasse Rafale. Mais finalement, on sent que ce n'est pas vraiment cette ligne qui dérange les ONG.
Ce qui dérange particulièrement, c'est la manière avec laquelle les autorités françaises ont autorisé la vente de matériel permettant le contrôle des populations par le biais des matériels de contrôle électronique, le contrôle des téléphones. Plusieurs entreprises françaises sont véritablement très développées en la matière et ont pu fournir toute une armada de surveillance, mettant en place un véritable Big Brother en Égypte, qui a permis et qui permet aujourd'hui aux autorités égyptiennes d'organiser une forme de dictature en pouvant ainsi poursuivre toute opposition et tout opposant et contrôler tout ce que dit chacun des activistes qui sont aujourd'hui poursuivis par les autorités.
Parce que c'est là bien la dérive. Au départ, ce sont des achats d'armes sous couvert de guerre contre le terrorisme. Ouais. Clairement, l'Égypte est une cible pour les terroristes. Mmh. Au final, pour vous, ce sont des armes qui sont qui ciblent plutôt finalement toutes les voix dissidentes et pas que ceux qui menacent la sécurité du pays ?
Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on regarde les condamnations ou les poursuites contre des défenseurs des droits de l'homme, contre des journalistes, contre des personnes tout à fait indépendantes de tout mouvement terroriste, ces personnes sont accusées d'être des terroristes. Le code pénal égyptien aujourd'hui permet de poursuivre des personnes pour toute menace à la sécurité de l'État. Et une jeune femme qui poste sur Internet une vidéo dans laquelle elle dénonce le harcèlement sexuel, Amal Fati, a été condamnée à 2 ans pour avoir menacé la sécurité de l'État. Donc ce sont des citoyens, ce sont des activistes de défense des droits de l'homme, des droits des femmes, des questions LGBTI, qui sont aujourd'hui poursuivis derrière les barreaux.
Alors il y a énormément de choses à dire, évidemment, sur les violations des droits de l'homme en Égypte. Pourquoi les ONG, vous étiez plusieurs à vous donner rendez-vous ce matin aussi pour sonner l'alerte, pour tenter de faire entendre raison sur ce point-là, Emmanuel Macron, pourquoi avoir choisi de parler des armes françaises plutôt que la liberté de la presse, de la lutte contre la torture, on y reviendra. Hein. Ce sont évidemment aussi des violations enregistrées dans ce pays.
Parce qu'on est au cœur, finalement, du problème franco-égyptien, s'il y en a, on peut le qualifier comme ça. La France a développé et met d'ailleurs en évidence le fait qu'elle a un grand partenariat stratégique avec l'Égypte pour lutter contre le terrorisme. Or, c'est au nom du terrorisme que l'Égypte développe sa dictature. Et donc, du coup, dans le cadre de ce dialogue égyptien, dans un premier temps, il est très important que les autorités françaises disent de manière très claire aux autorités égyptiennes, que ce n'est pas possible d'avancer comme ça et que les journalistes, les avocats, les activistes doivent pouvoir être libérés. Parce que ce ne sont pas des terroristes, vous vous trompez de guerre. La deuxième raison pour laquelle on est particulièrement préoccupé, parce que ça interroge finalement la politique étrangère française. Ça interroge finalement également la manière avec laquelle les autorités françaises aussi, en vendant ou en permettant l'exportation de matériel participant à une répression et à une dictature, la France se met en violation de ses propres engagements internationaux. Il y a un traité sur les ventes d'armes qui interdit les États parties à vendre du matériel s'il est utilisé pour commettre des violations des droits de l'homme. Il y a un arrangement à Vassénard, il y a des régulations européennes également qui interdisent aux États européens de vendre du matériel de technologie, on appelle ça des matériels de double usage, qui puissent être utilisés pour commettre des violations des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, c'est aussi un problème juridique.
La FIDH a publié un rapport le printemps dernier sur ces livraisons d'armes. Vous avez noté une progression constante des livraisons depuis 2010, soit un peu de temps avant la révolution égyptienne et la chute de Hosni Moubarak. Est-ce que vous avez documenter des cas précis où justement ce matériel français a pu servir à la commission de violation des droits de l'homme en Égypte, au-delà évidemment de la lutte contre le terrorisme qui est son but affiché.
C'est assez compliqué puisque le matériel qui a été vendu est du matériel qui permet de contrôler les communications, du matériel qui permet de contrôler l'utilisation d'Internet, donc du coup qui est suffisamment large sans que l'on sache précisément si et comment il a pu être utilisé effectivement pour poursuivre telle personne. En pratique, tout ce que l'on voit, c'est que les activistes sur Internet sont arrêtés. Donc du coup, la déduction que l'on fait, c'est qu'en effet, ce matériel peut être utilisé pour réprimer des dissidents. Mais Les obligations françaises, les obligations juridiques de la France, à cet égard, ne sont pas de vérifier si ça a été effectivement utilisé. Le droit international prévoit de suspendre les ventes s'il y a un risque que celui-ci soit utilisé à des conditions répressives. Ici, on a les preuves devant nous qu'il y a une répression. Nous appelons donc la France, nous, à suspendre toute forme de vente dans un tel contexte.
Pierre Vermeeren, pour qu'on comprenne bien les relations qui lient les deux pays donc autour de cette lutte contre le terrorisme, la France considère le Caire comme un partenaire efficace et incontournable. Emmanuel Macron l'avait souligné d'ailleurs lors de la visite de Fatah al-Sissi en octobre 2017 à Paris. Pourquoi le pays est-il perçu comme un bouclier contre le terrorisme? Ça, c'était le terme employé par le chef de l'État français donc il y a un an et demi.
Il faut dire qu'on a beaucoup à se faire pardonner, si vous voulez, parce qu'on a été des alliés très loyaux et très durables du régime de Moubarak. Ensuite, on a hésité devant la révolution, puis finalement, on a soutenu le gouvernement Morsi. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, du gouvernement actuel ni d'Emmanuel Macron, mais il s'agit de la diplomatie française ou de l'appareil d'État français, de l'Élysée. Et finalement, au début de l'arrivée sur la présidence égyptienne de l'actuel président, il y a eu une certaine hésitation, et puis, notamment due à la guerre en Syrie, je le disais, et puis maintenant, on est totalement alliés, notamment depuis qu'il y a eu les attentats en France. Avec cette cause commune contre le djihadisme, le terrorisme, qui avait donné lieu en Égypte en 2013 à une prise du pouvoir très violente et à la mort de plusieurs milliers de frères musulmans notamment. Et puis finalement, les attentats en France en 2015-2016 nous ont rapprochés de ces États sous la houlette des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite. Donc il y a là une alliance nouvelle à laquelle la France est associée. Et puis la France aussi, il faut le dire, est très sensible ou suit de près la politique américaine. On avait récupéré des parts de marché d'armement il y a quelques années en Arabie Saoudite. Et encore une fois, qui dit Arabie Saoudite dit Égypte, parce qu'elle est aujourd'hui un des gros financiers du régime égyptien.
Alors la visite, je le disais, d'Emmanuel Macron en Égypte intervient un peu moins d'un an et demi après celle d'Abdel Fattah al-Sissi à Paris. Je l'évoquais en introduction, la question des droits de l'homme avait déjà été évoquée. Écoutez la réaction des deux chefs d'État, donc il y a un an et demi.
La France défend les droits de l'homme comme étant des valeurs universelles qui ne souffrent d'aucun relativisme. Et ma conviction profonde, c'est qu'il est de l'intérêt du président Sissi d'accompagner justement la défense et la consolidation des droits de l'homme dans le contexte dont il est seul juge de l'État égyptien.
C'est important que vous sachiez que nous ne pratiquons pas la torture. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous raconte.
Antoine Madelin, il y a, semble-t-il, une certaine prise de conscience autour des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, dont une partie est responsable de morts civiles au Yémen. Des élus français réclament même la création d'une enquête parlementaire sur le sujet. Est-ce qu'il y a la même réflexion autour de la vente d'armes en Égypte? Est-ce que vous sentez que les élus français, puisqu'on a besoin, vous avez besoin d'eux pour faire avancer la question, sont sensibles à la situation en Égypte?
Alors oui, je pense. À la suite des saisines, en effet, des interpellations qu'on a pu faire auprès de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale a mis en place et a institué une mission d'information qui s'occupe de vérifier la manière avec laquelle le Parlement français aujourd'hui joue un rôle de contrôle et de supervision de la manière avec laquelle les exportations d'armes ou de biens à double usage se fait avec des pays tiers. Donc il y a une prise de conscience.
Donc c'était autour de l'Arabie des armes vendues à l'Arabie Saoudite, mais aussi autour de celles de
C'est parti de l'Arabie Saoudite, ouais. Et puis aujourd'hui c'est une réflexion générale, puisque ce que l'on avait mis en évidence en Arabie Saoudite et de la même manière avec la France, c'est que les institutions en charge de l'exportation, qui donne des visas d'exportation pour les armes ou des visas d'exportation pour les biens à double usage, ne fonctionnent pas, puisque nous voyons que le matériel continue d'être vendu dans des contextes de guerre ou dans des contextes de dictature. Et donc, du coup, il faut que le Parlement français puisse se saisir de cette question et se réapproprier la défense des droits de l'homme, en effet, dans la supervision de ces ventes.
Cette guerre contre le terrorisme qui justifie justifie pour le Caire et Paris, en tout cas ses échanges commerciaux autour des armes. Abdel Fattah al-Sissi l'a lancé en 2013, il était encore que ministre de la Défense. Pierre Vermeeren, à partir de quand finalement cette répression dépasse les milieux terroristes ou accusés de l'être? Est-ce que ça a été dès 2013 ou dès en tout cas l'accession de Sissi au régime?
Non, ça n'a pas été dès 2013, notamment parce que le gouvernement actuel, enfin les autorités actuelles, se sont présentées au départ comme ceux qui allaient sauver la révolution égyptienne. Il faut dire que les frères musulmans au pouvoir ne s'étaient pas gênés avec la légalité. Ils avaient même organisé une sorte de coup d'État constitutionnel, s'accaparant tous les pouvoirs, notamment judiciaires. Et donc les militaires ont réussi à reprendre la main à travers le coup d'État de juillet 2013, avec l'appui de la majorité de la population, de la rue, des organisations démocratiques. Et il a fallu attendre quelques années, en tout cas au moins un ou deux ans. Bon, déjà au moment du coup d'État, on s'est rendu compte de l'extrême violence qui avait été déployée contre les frères musulmans, mais au fond, une grande partie de la population égyptienne était assez d'accord avec cette violence, parce qu'ils pensaient que sinon ce serait une violence symétrique inverse. Donc ils ont échappé à ça. Ils ont cru encore à l'avènement de temps plus démocratiques, et puis finalement, petit à petit, il s'est avéré que la répression s'abattait sur tout le monde. Alors c'est un grand classique dans les régimes arabes, dans ce genre de situation, c'est pas du tout un cas exceptionnel, sauf que cette fois-ci, effectivement, ça dure avec un régime qui est solide, qui est soutenu par l'Occident, qui est soutenu par les monarchies du Golfe, qui effectivement relance la croissance et qui du coup est obligé de... Et puis qui livrait, il faut le dire, à une vraie guerre, parce que un des prétextes de ce gouvernement très autoritaire, c'est ce qui se passe dans le Sinaï. Mmh. Le Sinaï, c'est une région relativement périphérique et marginale, mais il y a là-bas effectivement à l'initiative des Bédouins ou une guérilla islamiste avec probablement des maquis, des grottes. Bon, et donc l'armée fait la guerre depuis 2017 dans cette région, mais il faut bien dire que dans la vallée du Nil, qui est beaucoup plus calme, il y a une surveillance extrême, une répression policière constante, et bien sûr de temps en temps des attentats. Je crois que de mémoire, il y en a encore eu un la semaine dernière qui a donné lieu encore à plusieurs dizaines de personnes assassinées dans les rangs des prétendus terroristes. Alors ils le sont peut-être, mais ils ne le sont peut-être pas, parce que de toute manière, la répression frappe très large.
C'est ça, Antoine Madelin, finalement, cette accusation de faire partie d'un groupe terroriste, ça peut toucher, on a l'impression, à peu près n'importe qui en Égypte. L'exemple, par exemple, d'un avocat, Mohamed Ramadan, qui est placé à l'isolement depuis plus d'un mois pour avoir posté une photo de lui sur les réseaux sociaux vêtu d'un gilet jaune. C'était un clin d'œil, évidemment, au mouvement social français, puisqu'il défend des travailleurs. Il se voit accusé d'avoir rallié un groupe terroriste et de promouvoir ses idées. Ça paraît très surprenant, mais finalement, en Égypte, c'est assez classique d'accuser les gens d'avoir un lien avec un groupe terroriste, ou en tout cas de vouloir déstabiliser le pays.
C'est comme ça qu'est développé en effet le code pénal sous la présidence Sissi. En effet, aujourd'hui, une association de défense des droits de l'homme est peut-être poursuivie pour terrorisme. Une association de défense des droits des femmes peut être poursuivie pour terrorisme. À partir du moment où l'on critique les autorités, à partir du moment où l'on peut dénoncer la situation dans le pays d'une manière large et même peut-être sans nommer personne, on peut être accusé de porter atteinte à la sécurité de l'État et ainsi être accusé de terrorisme, poursuivi derrière par des tribunaux spéciaux qui ne permettent pas le droit de la défense. Bien évidemment, tout ceci se passe dans des conditions de procès totalement arbitraires.
Un recours aussi à la torture, est-ce que c'est documenté assez systématique? On entendait le président Sissi dire que c'était n'importe quoi, qu'il ne fallait pas y croire.
Tout à fait à la torture, puisque depuis l'accession au pouvoir de Sissi, on a noté plus de 100 morts, 100 décès en détention. Donc ce sont des personnes qui, soit ont tous eu des arrêts cardiaques, soit ont tous été gravement torturés. Mmh. Et malheureusement, l'expérience que l'on a, en tout cas des personnes qui sont sorties de prison et de cette pratique commune.
Les ONG donc qui lancent l'alerte à la veille de la visite d'Emmanuel Macron en Égypte, elle va commencer donc dimanche avec a priori des contrats commerciaux d'armes. Merci beaucoup Pierre Vermeeren, professeur d'histoire contemporaine en ligne avec nous. Antoine Madelin, responsable du plaidoyer international à la FIDH, et merci à toute l'équipe de Décryptage.